Bonjour, je vous parle régulièrement de podcasts, le plus souvent pour vous recommander les productions de nos amis ou confrères winecasters. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui de radio. Vous savez, ces podcasts qui ont déjà été diffusés sur des ondes hertziennes. Commençons par l'émission Géographie à la carte sur France Culture, un programme dédié, oui, à cette science qui vous rappelle sans doute quelques souvenirs du lycée et qui consacrait il y a quelques mois un numéro à la géographie des vins et spiritueux en France. C'est volontiers technique, rigoureux, mais cela reste très digeste et réellement passionnant. Grâce notamment à la contribution de Laure Dugas, elle est caviste à l'Ébéniste du Vin, établissement hautement recommandable du 17e arrondissement de Paris, dont l'ami Patrice Defay nous a plusieurs fois parlé ici. Sur France Culture encore, la géniale émission Une journée particulière raconte les coulisses du fameux concours de 1976 qui vit pour la première fois des vins californiens battre des vins français à l'aveugle dans un concours d'œnologie. Un événement qui fit grand bruit, bien au-delà du monde du vin, et changea pour toujours les regards sur ce que l'on appelle encore parfois les vins du Nouveau Monde. Dans son émission quotidienne, Sans oser le demander, l'excellent Mathieu Garrigou-Lagrange pose avec son invité, l'auteur de livres sur le vin, universitaire, scientifique et sommelier, Fabrizio Buccella, la question fondamentale « Pourquoi boit-on du vin ?» C'est toujours sur France Culture et c'est formidable. N'oublions pas France Inter où Mathieu Vidard et son équipe consacrent dans La Terre au Carré une émission au thème « Vin et changement climatique » traité comme toujours avec beaucoup de clarté et de rigueur et sans négliger aucun des paramètres de cette équation complexe. Même Ali Rebéi, dans Grand Bien vous fasse, parle de vin lorsqu'il vous explique comment bien choisir son vin. Et je vous invite aussi à aller écouter un épisode un peu plus ancien nommé « Le vin est-il un alcool comme les autres ?» Pas de côté salutaire pour mesurer ce qui fait la singularité de ce divin breuvage. Comme dans l'art, tout est affaire de regard. Et oui, le vin est partout et la matière culturelle qu'il produit ne cesse de s'étendre. Signe des temps, on présente le vin volontiers dans sa dimension culturelle, historique, scientifique, sociale, économique. Et quand c'est fait avec la qualité des professionnels que je viens de citer, vous ne devriez pas être déçu de l'écoute. Ce 86e épisode s'intitule « Grain de sel, du vin dans les voiles ». Bienvenue dans la Terre à boire. Alors, bienvenue, on se retrouve au studio Module et avec moi autour de la table, Laurent Delceau. Comment ça va ?
Mais ça va bien, je te remercie.
Patrice Defay, bonjour.
Bonjour.
Au programme aujourd'hui donc, comme je l'ai dit dans le titre, Grain de sel, qu'est-ce que c'est ? C'est une jeune société bretonne qui a de très bonnes idées pour transformer un peu notre monde, lui donner quelques opportunités de réduire un peu son empreinte carbone. On va donc parler de cette compagnie, Grain de sel, avec notre invité. Bonjour Mathieu Rioux.
Bonjour.
Merci d'être avec là. Bonne année à toi aussi. Tiens.
Bonne année également à tous.
Puisqu'on y est. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le directeur export. Quel titre pour un jeune gars de 27 ans qui est en face de moi. Félicitations pour ce titre.
Merci.
Tu es directeur export chez Grain de sel, qui donc est une société qui réinvente le transport à la voile.
C'est ça.
Tout exactement. Simplement. Raconte-nous un petit peu la présentation de ce projet, sa genèse et comment toi tu es arrivé dans l'aventure.
Alors du coup, Grain de sel, c'est une entreprise qui a été fondée en fait en 2010, donc par Jacques et Olivier Barraud, qui sont des Bretons aussi, qui viennent de Saint-Brieuc. Donc la société est basée à Morlaix dans le Finistère. Et Jacques et Olivier Barraud, ils viennent du secteur de l'éolien offshore à la base. Donc ils ont géré des gros projets par rapport à ça. Et après avoir terminé un peu ces projets, ils voulaient faire quelque chose de différent, toujours tous les deux, parce qu'ils ont toujours bossé un peu ensemble, mais qui est toujours en rapport avec le vent. Donc leur idée, ça a été de se dire, voilà, on aimerait fabriquer et commercialiser des produits gastronomiques dont les matières premières en fait viendraient forcément de loin, mais que les Français et les consommateurs seraient pas prêts forcément à passer à autre chose ou à les éviter. Donc ce qu'ils sont dit à la base en 2013, c'est qu'ils allaient commencer par du café, donc apporter du café en fait de République dominicaine, puis ensuite en 2016 du chocolat. Et donc avec cette idée de faire en sorte que cette importation soit plus respectueuse de l'environnement et avec un bilan carbone qui soit beaucoup plus efficace en fait. Et donc, à la suite de ça, donc 2013 et 2016, ils ont lancé le chocolat et le café donc en Bretagne.
En faisant au départ venir la matière première de manière conventionnelle.
Tout à fait, c'est ça. Mais avec la promesse qu'on essaierait de faire mieux, en fait, si on rencontrait du succès et qu'on avait les moyens financiers de lancer la construction d'un voilier. Parce qu'il y a beaucoup de projets, en fait, autour de la voile actuellement. Et ce qui est vachement bien, mais ça reste que quand même des projets qui sont très capitalistiques. Et donc, il faut, mine de rien, avoir des fonds pour faire marcher une société et que ça reste pas uniquement un rêve. Donc, à la suite de ça, en 2016, ils ont donc lancé le chocolat. Et en 2018, on a pu lancer la construction du premier cargo voilier moderne, donc le Grain de Sel. Pas fait très original dans le nom, mais donc ils l'ont lancé.
Alors, ça... le nom lui-même est original. Le évidemment, est je précise que Sail s'écrit S-A-I-L,
c'est ça.
Comme la voile en anglais.
Donc, ils ont trouvé ce petit jeu de mots au début quand ils ont lancé l'entreprise. Et donc, 2018, 2 ans de construction du voilier. Et 2020, première traversée transatlantique. Donc, moi, je suis arrivé ici chez Grain de Sel donc en 2017. Je suis originaire de Morlaix, en fait, c'est comme ça que j'ai un peu découvert la société aussi. Par coïncidence complète, hein, je raconte un peu l'histoire de comment je suis arrivé là-dedans. J'ai fini mes études et il se trouve que la voisine de chez mes parents travaille à la chambre de commerce franco-américaine, à la chambre de commerce et d'industrie bretonne, pardon. Et juste, donc j'ai été donné mon CV comme ça en disant bon, on verra bien. Et juste à ce moment-là, Jacques cherchait quelqu'un en fait pour assurer la partie d'exportation, le sourcing des vins et tout ça. Donc j'ai entendu parler d'une entreprise qui faisait du chocolat, du vin à la voile à Morlaix. Je me suis dit que c'était quand même super sympa. Et je suis allé rencontrer Jacques, on a discuté 1h30, on a bu un coup, et puis il m'a dit, bah, t'es embauché. Et donc voilà, en 2017, d'accord, j'ai commencé l'aventure chez Grain de Sel, donc vraiment à la jeunesse de tout le projet export. Parce que ce qu'ils se sont dit, donc bien évidemment, pour aller justement chercher du café et du chocolat à la voile, il faut d'abord traverser l'Atlantique. Et donc, c'était le but de Grain de Sel et la société, c'est toujours de naviguer à plein, donc de charger vraiment le bateau. Et donc, ils ont réfléchi à quel type de produit un peu emblématique on avait en France et qu'on peut exporter assez facilement. Donc, très vite, ils en sont arrivés au vin. Et donc, j'ai passé à peu près 2 ans, donc de 2017 à 2019, à écumer un peu tous les salons, à faire des dégustations, à rencontrer des vignerons pour justement faire ce sourcing des vins. Et en 2020, donc, on a lancé le premier transport transatlantique à la voile avec le Grain de Sel. Donc, maintenant, c'est une société qui fait à peu près 45 personnes. On a réalisé 7,7 millions de chiffre d'affaires cette année, enfin l'année en 2021. Et le principe, c'est qu'on charge le bateau d'environ 18 000 bouteilles, donc à Saint-Malo. On les exporte aux États-Unis, donc à New York. On décharge. Ensuite, là, on l'a réussi pour la première fois. On fait du transport humanitaire.
Ok, ouais. Okay. On va rentrer dans le détail ensuite. Parce que, non, pas de problème. Mais, donc, tu passes de New York à la Rebdom et de la Rebdom, vous prenez du café, du chocolat, vous revenez.
C'est ça.
Et enfin, vous prenez la matière première pour faire ensuite ramener en Bretagne la torréfaction et la chocolaterie.
Exactement.
Bon, c'est un projet que j'ai adoré tout de suite. J'ai découvert en fait en mangeant votre chocolat hein, en Bretagne, mm-hmm. parce qu'il est distribué plus en Bretagne quand même qu'à Paris.
C'est ça.
Mais il arrive à Paris, tu nous l'as dit. Vous connaissiez ce projet, Laurent et Patrice ? Vous aviez entendu parler de Grain de Sel ?
J'en avais entendu parler par des vignerons avec lesquels je travaille en fait, qui étaient fiers d'annoncer qu'ils étaient partenaires de ce projet.
Comme l'un dont on a déjà parlé.
Donc effectivement, les deux vignerons auxquels je pense, c'est Jean-Frédéric Bistagne du domaine des Maravillas, dont on a déjà parlé à l'Irak, et Denis Ebinger, qui lui est en Alsace.
Dont on va boire un petit vin un peu plus tard.
Et moi j'ai découvert il y a un an à peu près, parce que j'ai eu la chance de goûter le chocolat, qui était très bon. Alors on peut pas l'acheter à Paris en distribution, mais on peut se faire livrer. Hein. Il suffit d'aller sur le site Grain de Sel et puis on peut se faire livrer une belle box de chocolat qui sont excellents et pas chers du tout. Parce que je pense que la tablette en moyenne elle a 2,83 €, ce qui est vraiment hyper raisonnable, à la fois compte tenu de l'impact carbone et de la qualité des produits. Donc voilà, moi je l'ai connu par le chocolat, tout simplement.
Alors on va parler plutôt de vin et avant de rentrer dans les détails, on commence toujours, on a un peu une habitude, on commence toujours par ouvrir une bouteille dans cette émission. Et en l'occurrence, l'ordre des vins et des couleurs a fait que ça va être la tienne. C'est toi qui as apporté ce Château Lafite, mais qui n'a qu'un F et deux T. Et qui est
ça
donc...
pourrait être un vin chinois, une copie, mais non. En fait, ce n'est pas une copie de Bordeaux, mais c'est un vin de Jurançon.
Un Jurançon sec. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce vin, Mathieu ? Pourquoi tu l'as choisi ?
Alors, c'est un vin qui est fait par Antoine Araou, donc, qui est basé à Monin, en fait, dans le Jurançon, et que j'ai rencontré aussi avec une histoire un peu particulière. C'est-à-dire qu'Antoine, en fait, son épouse a de la famille en Bretagne, et donc à Morlaix. Et il se trouve qu'il faisait un petit salon de je crois que c'est de l'habillement, de l'ameublement, etc. Et au début, quand il a lancé, en fait, on l'a repris un peu le domaine familial. C'est un très vieux manoir, en fait, du 14e siècle, le Château Lafitte. Et il, donc, il faisait un peu ce petit salon parce que, comme ça, ils y allaient avec les enfants, ils voyaient la famille, etc. Et donc, moi, j'ai entendu parler de ça, je suis allé le voir, on a discuté. Et j'ai trouvé ces vins super intéressants, en fait, parce que déjà, je connaissais pas beaucoup de Jurançon. Surtout pas les Jurançons secs. C'est quand même une appellation, on a tendance à plutôt boire des vins liquoreux ou des vins moelleux. Et donc ça, c'est le Château Lafitte, donc c'est la version sec en 2019. C'est un assemblage de petits mansingues et de gros mansingues. Donc avec c'est 80% de petits mansingues et 20% de gros mansingues. Et il a un aspect très intéressant aussi, je trouve. C'est très, très aromatique au nez, enfin vraiment beaucoup de choses, de la minéralité. Et il y a aussi un petit côté très sympa et qui le rend très gastronomique, je trouve, où il reste un petit peu de sucrosité, même en bouche, alors qu'il n'y a pas du tout de sucre résiduel. Et donc ça, de ce qu'il m'expliquait, c'est vraiment l'apport aussi du petit mansingue, en fait, qui vient ramener tout ce côté un peu charnu et cet aspect très gastronomique. Donc Antoine, je l'ai rencontré comme ça, j'ai été le voir deux fois au domaine, et j'ai adoré tout ce qu'il fait. En fait, il a vraiment, il essaye énormément de choses, donc il a deux gammes de vins, il a donc sa gamme un peu plus, en AOC Jurançon, son sec et son doux, et après il fait des vins plus, comme il aime à dire, des vins un peu plus libres, un peu plus personnels, donc plutôt des vins nature, des vins orange. Il a fait aussi des choses assez, assez exceptionnelles que j'ai eu l'occasion de goûter chez lui. Notamment un vin qu'il a appelé Sol ici et là, je crois. Où ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un liquoreux, qu'il a mis dans des grandes demjane et qu'il a laissé en fait pendant deux ans en haut d'une sorte de terrasse en fait sur son domaine. Et donc avec le vent, la pluie, etc., sans les toucher. Et qui relançait en fait des fermentations toutes seules en grignotant les sucres. Jusqu'à un moment où il s'était dit que ça lui plaisait bien et du coup il a mis ça en bouteille. Il fait aussi une solera en fait de vin moelleux. Enfin, il tente énormément de choses. Et moi, c'est quelque chose que je recherche aussi un peu quand je fais du sourcing pour Grains de Sel, de trouver cette nouvelle vague des vignerons un peu qui reprennent des choses un peu plus traditionnelles, mais qui apportent un peu de modernité là-dessus aussi.
Est-ce que du coup, il y a un cahier des charges des vignerons choisis
chez Grains de Sel? Oui, c'est ça. Ouais. Donc moi, j'ai bossé, donc comme je vous disais, deux ans pour faire ça. Et en fait, donc le premier point, c'était de base que ce soit au minimum bio. Ça reste cohérent un peu, tous nos cafés, tous nos chocolats sont bio aussi, et c'est quelque chose qui est assez naturel pour nous. Par affinité, la plupart des vins qu'on transporte sont biodynamiques, donc comme le Château Lafitte. Donc cet aspect-là, le second aspect qu'on voulait aussi, c'est que les vins soient pas forcément présents en fait à New York, donc pour amener de la nouveauté, avoir aussi des ventes qui sont un peu plus faciles, et de retrouver aussi des gens qui partageaient un peu nos valeurs, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui étaient assez fiers aussi de dire qu'ils essayaient de faire un effort de leur côté, parce qu'ils travaillent proprement dans la vigne, proprement dans les chais, et le transport en fait conventionnel reste quand même très...
Le point noir un petit peu de la chaîne.
Voilà, c'est ça.
Du vin. On va rentrer dans le détail de Grains de Sel, parlons un petit peu de ce vin. Qu'est-ce qu'il vous inspire, messieurs Laurent? Moi, j'aime beaucoup, il y a un côté
très vif. Très étonnant, parce qu'en fait, au nez, on a vraiment une sensation d'opulence. Il y a vraiment une richesse dans ce nez, même des notes un peu oxydatives. Et quand on le prend en bouche, on a un coup de fouet... magistral qui rend ce vin très très agréable, très salivant et qui donne envie d'en boire assez. Non mais c'est vrai.
Je trouve même un côté salin un peu.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ça doit péter avec des huîtres. Ça doit être incroyable.
Ouais, moi je l'aime beaucoup sur des huîtres aussi. Pourtant je suis breton donc on boit plutôt du muscadet en général quand on prend des huîtres chez nous. mais non, moi j'adore avec des huîtres et ouais, il y a ce côté un peu minéral. Et Antoine fait toujours des vins avec beaucoup de fraîcheur. Et moi personnellement j'aime beaucoup justement c'est ce que tu disais aussi de qui appelle un autre verre en fait derrière. Et donc je travaille sur des blancs, je recherche à avoir des vins avec beaucoup de fraîcheur, des acidités assez assez poussées en général.
Patrice, ce vin, qu'est-ce qui t'inspire?
Oui, tout à fait d'accord. Effectivement, il y a beaucoup de longueur, je pense que ça peut se garder, mais effectivement beaucoup de gourmandise, donc c'est encore une fois c'est sur le fil entre le côté assez en fait fruit exotique, fruit à noyau du nez et le côté presque chablisien, je dirais, de la tension, du fait que ça reste en bouche, on a l'impression de toucher un caillou là, donc je sais pas sur quel sol il fait ça dans le Jurançon, mais bon, on sent que le côté le toucher très côté ouais. Sécheresse et longueur et structure très, très droite du vin.
Alors, maintenant qu'on a ce beau breuvage dans les verres, parlons un peu de comment ça se passe concrètement. Donc, vous sélectionnez des vignerons qui sont bio, qui ne sont pas distribués à New York. Mm-hmm. au départ. Comment vous transportez ? Je crois qu'il y a 18 000 bouteilles, c'est ça ?
C'est ça.
Dans le voilier actuel, donc, et donc, qui a été construit spécifiquement pour ça, 2020. C'est une goélette, un deux-mâts.
Exactement.
Comment, d'abord, une question que je me suis posée moi, est-ce que vous avez des conteneurs réfrigérés ? Parce qu'on sait que transporter du vin, c'est une gageure, enfin, c'est pas évident, il peut faire très chaud, ça peut vriller les vins, et quand ils arrivent, c'est plus la même. Comment ça se passe techniquement ?
Alors du coup, le bateau, quand on dit que c'est le premier cargo voilier moderne du monde, c'est parce qu'il a vraiment été construit pour ça. Donc c'est un bateau qui est en aluminium aussi, parce qu'il y a d'autres transports à la voile qui se font avec des vieux gréements, donc en bois. Donc nous, on l'a vraiment voulu aussi. Le but, c'était de trouver un peu toutes les technologies qui étaient disponibles sur des porte-containers, sur des bateaux, sur des yachts, et de les concentrer en fait dans un voilier, donc qui marche à 99% du temps à la voile. On a quand même un petit moteur parce que c'est obligatoire pour les manœuvres portuaires. Mais ils ont réfléchi, en fait, tout a été construit autour de la cale, donc le but c'était de maximiser en fait l'espace donc en cale. C'est assez impressionnant à voir, en fait c'est pas un conteneur, donc on charge en palettes, donc par un panneau de trappe avec une grue sur le quai, et on peut mettre 26 palettes au sol. Donc c'est le maximum qu'on peut faire pour l'instant. Et en fait, ils ont réfléchi à cette cale un peu en s'inspirant de ce qu'on peut faire dans des bateaux de pêche aussi. Donc avec une isolation qui était très très poussée et qui a été très importante dans la réflexion. Donc ils ont projeté en fait à peu près 30 cm de mousse justement qui vient isoler en fait toute la cale. On pose aussi des couvertures thermiques en fait sur les palettes, et mine de rien, le fait que ce soit en aluminium, et l'aluminium qui est un peu, enfin qui conduit aussi, le fait qu'il soit enfoncé dans l'eau, ça permet d'avoir aussi une température qui reste la plus stable possible. Donc là, sur les trois premières boucles qu'on a fait sur le Saint-Malo New York, on est entre 16 et 19 degrés en fait tout le temps, et on a aussi une petite climatisation à l'intérieur qu'on pourrait utiliser si jamais il y avait un gros choc, mais pour l'instant on n'a pas eu besoin, donc on est très content de pouvoir fonctionner comme ça.
Ce qui prouve aussi que, parce que l'essentiel des vins, enfin tous les vins sont bio, mais il y en a qui sont aussi biodynamiques, bientôt des vins nature, c'est-à-dire que ces vins-là, ça se garde et ça se transporte.
Tout à fait, ouais,
on a c'est bien.
Bah là, en l'occurrence, effectivement, le vin qu'on va déguster est un vin nature tout à l'heure.
Tout à fait. C'était un peu mon inquiétude au début, donc j'ai fait des tests en fait aussi avec des bateaux de pêche en Bretagne. Donc de voir, entre guillemets...
Tu allais promener ta bouteille.
Bah, c'est ça, en fait, j'ai mis toutes les bouteilles que j'avais sourcées, on les a mis sur un bateau de pêche qui est parti pendant 3 semaines. Et après, mon idée, c'était de voir, enfin surtout d'évaluer en fait la période de repos dont aurait besoin les vins. Parce qu'on se disait quand même, mine de rien, outre la température, une petite goélette de 26 mètres de long, ça bouge un peu plus qu'un énorme porte-container. Donc on voulait vérifier ça, donc on l'a goûté à l'arrivée, après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines. Et donc tous les vins qu'on transporte avec grains de sel, on leur alloue au minimum un mois de repos en fait à l'arrivée.
Un mois, d'accord.
C'est ça.
Donc quand vous arrivez, vous ne pouvez pas livrer tout de suite vos clients. Alors, qu'est-ce que vous faites alors ? Le bateau, il reste un mois sur place ?
Le bateau, il reste 15 jours en général, donc on fait de l'événementiel, on fait déguster, enfin on monte le bateau parce que c'est aussi ça qui permet d'engager, et que les gens connectent un peu avec le projet, c'est de le voir. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, moi, quand je suis arrivé la première fois et j'avais 25 ans, j'ai un projet de transport à la voile, en bateau. Les gens ne prenaient pas forcément au sérieux. Et c'est étonnamment. Pour le sourcing des vignerons, c'était un peu comme ça aussi au début. Et au final, quand ils voient vraiment le bateau, qu'ils rencontrent les marins, parce que c'est ça ce qui est intéressant aussi, qu'on l'a fait en fait et que c'est possible et que ça marche. Donc c'était un gros aboutissement à la première transat. Et là, ça devient un peu plus routinier maintenant. Donc c'est aussi ça dont on est assez fiers, que ce soit moins un événement en fait, les départs et les arrivées. C'est quelque chose qu'on veut inscrire un peu en fait dans un calendrier annuel, quoi.
Ça permet aussi de faire un peu de com. Quand on vous suit sur Insta, sur Instagram, on voit des belles photos, l'arrivée à New York, le départ, le quai à Brooklyn, etc. Donc vous faites un peu d'événements sur place, vous invitez des restaurateurs, des sommeliers, des cavistes.
C'est ça.
Ça, c'est ton boulot. Tu vas aller chercher.
Ouais, mais on a eu le premier, on a eu la chance d'avoir Pascaline Lepelletier qui est venue goûter sur le bateau. Donc, c'était super sympa. Elle a fait une sorte de petite cour d'œnologie aux marins en plus, avec des conditions de dégustation assez drôles où on venait d'arriver. Enfin, en plus, c'était assez catastrophique en termes de météo. On a déchargé les vins. Il y a eu une tempête de neige. Enfin, il y avait 30 cm de neige sur lequel le lendemain matin. Et donc, pas de crachoir, pas de verre. Donc, on crachait par-dessus bord. Enfin, c'était assez, assez fun comme dégustation. Et puis, d'avoir une pointure comme Pascaline Lepelletier, goûter les vins, les apprécier, les expliquer. C'était un super honneur. On était très contents. Donc, on essaye de faire ça, en fait, à chaque fois maintenant, d'avoir des cavistes, des restaurateurs, des bars à vin, des sommeliers qui viennent sur le bateau déguster les vins.
Combien de personnes participent à la traversée ?
Ils sont 4 marins.
D'accord.
Donc il y a quatre couchettes, donc c'est pour ça qu'on fait pas de transport non plus touristique pour le moment, et que moi j'y vais malheureusement encore en avion quand je me rends à New York. Donc je crible un peu le bilan carbone de l'entreprise à cause de ça.
Mais, à toi tout seul.
Voilà, c'est ça. Mais non, il y a quatre marins. Après, c'est un bateau qui a été aussi voulu donc de concentrer un peu les technologies, comme je vous disais. Donc en fait, un officier de quart peut naviguer le bateau tout seul. Mais c'est vrai qu'en termes de sécurité, en termes de vie à bord aussi, c'est quand même plus sympa d'être quatre que d'être tout seul. Donc non, ils sont quatre. Et sur le second, ils seront une dizaine à peu près.
Il y aura un peu de... Il y aura une cabine pour toi ?
Peut-être.
En plus, en même temps, c'est pas hyper efficace d'avoir le directeur export qui passe trois semaines en mer.
C'est ça. C'est aussi ce qui est rentré un peu en compte.
Au niveau des réseaux Wi-Fi. Ouais. Bon. Okay.
Sur le prochain.
Parce qu'il y a un deuxième bateau en construction, c'est ça ?
C'est ça. On lance la construction cette année. Donc celui-là, comme je vous disais, il fait 26 mètres de long et on peut mettre 26 palettes en cale. Le second, il va faire le double et on pourrait mettre quasiment 300 palettes. Donc on va avoir un double pont en fait dans la cale et en augmentant juste, enfin en multipliant par 2, on multiplie la capacité de chargement par 10.
Wow. Alors, est-ce que tu as les 20 pour charger
Non, encore
300 palettes. Comment ça se passe? Quelle est la gamme aujourd'hui, si on doit la décrire rapidement? Il y a des régions qui dominent
Pas forcément, en fait. C'était aussi un peu un avantage. Moi, je suis breton, la boîte est basée en Bretagne, donc on n'avait pas non plus... sans le vouloir, un focus. Si on avait été basé à Bordeaux, je pense qu'on aurait envoyé plus de vin de Bordeaux, par exemple. Donc non, j'ai cherché un peu partout ce qui me plaisait, ce qui pouvait marcher aux États-Unis aussi. Donc là, on travaille avec 10 vignerons qui viennent de partout en France. Hein. On a des domaines dans la Loire, des domaines dans le Muscadet, en Champagne, en Alsace, dans le Rhône, dans le Jurançon et en Bourgogne aussi. Et donc c'était vraiment très ouvert et très... ça marchait aussi un peu par du bouche à oreille, des dégustations et ces choses-là.
Tu parles de la Bourgogne, justement, ça m'a intéressé particulièrement parce que vous avez une démarche un peu différente là.
C'est ça. En fait, sur la plupart de, enfin, sur 9 vignerons avec qui on travaille, on vient en fait leur demander, donc on achète en direct au domaine, on s'occupe de tout le transport, de tout l'administratif, tout le douanier. Donc une fois que les vins sont sortis de chez le vigneron, il n'a plus rien à gérer. Et donc sur ces vins-là, on la pose un sticker en fait, donc qui certifie du transport à la voile, avec notre logo et avec un numéro de voyage unique aussi, donc qui permet après sur le site Grandsale Wines d'aller voir comment s'est passé le trajet, combien de temps ça a pris, qui étaient les marins, qu'est-ce qu'il y avait dans la cale. Et en Bourgogne, on travaille en fait un peu différemment, où quand moi je faisais du sourcing et je voulais quand même envoyer du Bourgogne parce que ça marche relativement bien aux États-Unis et à New York en particulier, et j'arrivais pas à trouver en fait quelque chose qui n'était pas présent, qui était dans des prix un peu abordables, en bio. Et au final, je crois que c'est via un groupe Facebook, il me semble que c'est 20 bio dynamiques, qui est un groupe assez, voilà, où il y a pas mal de rencontres qui se font, où j'avais posté quelque chose, et donc il y a Arnaud Bouet, donc qui est un tout petit négociant vinificateur, en fait, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, qui avait répondu, et je l'ai rencontré, on a goûté les vins, et en fait, on a créé une sorte de vin grain de sel, en fait. Donc les vins Bourgogne, on a créé une étiquette qui reprend un peu le design du stickers, mais qui met en avant tout le transport à la voile, etc. Donc avec aussi un design un peu différent de ce qu'on peut trouver en Bourgogne sinon.
Donc vous avez proposé à ce vigneron de faire une cuvée spécifique pour...
On a cinq.
Cinq cuvées spécifiques pour grain de sel avec une étiquette grain de sel.
Exactement, ouais. Donc on travaille sur un Bourgogne rouge, un Bourgogne blanc en appellation classique, Côte de Nuit Village Blanc et Côte de Nuit Village Rouge et Nuit Saint-Georges. Donc sur les cinq, ces cinq bouteilles-là.
On retrouve Isabelle Pango, domaine de l'affût, dont on a parlé ici. On retrouve Maravillas, dont tu as parlé. Jean-Frédéric Bistagne. On retrouve le domaine Aquilée. Également, je ne sais pas trop si on en a déjà parlé, mais c'est des domaines qui sont assez connus. Et la famille Binger, qui va être notre deuxième vin. On va finir un peu cette merveille-là. Vraiment, merci, hein, parce qu'il est très beau. Hein. Il est d'un jaune... solaire, il est vraiment très agréable.
C'est bien de nous avoir apporté ça parce qu'effectivement, quand on parle de Jurançon, on a tendance à associer ça systématiquement avec des vins doux. Or, les vignerons du Jurançon se sont vraiment battus pour obtenir une appellation en sec.
Ben voilà ce qu'ils en font.
Du fait de la disparition effectivement un peu progressive des débouchés sur les vins doux.
Et du fait aussi qu'on ne peut pas faire toujours du liquoreux chaque année. Donc ça permet d'écouler.
On peut.
Mais il n'est pas toujours exceptionnel. Ouais.
Non, mais de qualité. Ouais.
Voilà. Après, tout le monde n'a pas cette, on va dire, cette retenue. Hein. les gros volumes de Jurançon sont quand même aussi faits par des coopératives qui ne sont pas toujours aussi regardantes.
Oui, qui chaptalisent.
C'est ce que tu décris.
Tu as des vins moelleux dans la gamme ?
Le doux de chez Lafitte aussi.
D'accord. Ouais.
C'est vraiment un effet de gamme aussi. Et pareil sur son doux, il a une acidité en fait qui est très 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 marquée, très très forte, qui vient contrebalancer un peu ce côté sucré. Donc ça apporte beaucoup de choses. Et donc moi, ça m'avait bien plu cet aspect-là.
Alors, le deuxième vin, ça va nous permettre de continuer à parler, parce que c'est un des sujets que je trouvais intéressant, c'est le marché à New York. Donc tu rencontres des cavistes, des sommeliers. Je crois que la partie restauration est plus importante que la partie caviste. Il y a une explication, tu penses, à ça ?
Je pense, au début, je misais beaucoup plus sur les cavistes en fait, en termes de volume. Et au final, on se rend compte qu'avec l'histoire et le projet qu'on raconte un peu et l'aventure, un sommelier a peut-être un peu plus de temps en fait, pour expliquer que certains cavistes avec qui on travaille. Et du coup, on sort plus de bouteilles justement avec les restaurants avec qui on travaille. Bah, notamment, Lafitte marche très bien sur certains restaurants. Ils le mettent souvent sur des desserts ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa.
Et restaurant de cuisine française ou tout type de cuisine?
Là, actuellement, celui avec qui je bosse pas mal là-dessus s'appelle Fulgurance. Mais il y en a un à Paris, je crois, aussi. Et c'est un sommelier breton aussi que j'avais rencontré. C'est la Brace Connection qui marche beaucoup.
Ils sont tous avec des drapeaux quand même, les drapeaux bretons.
La mafia bretonne.
Le Guenadieu est un peu partout par là-bas. Mais non, il le travaille très bien. Et bah, c'est la chef Alexia Duchesne, de Top Chef, là, qui a repris. En fait, c'est un concept un peu particulier, Fulgurance, où c'est des périodes de 3 à 6 mois. Et en fait, ils prennent souvent des sous-chefs ou des seconds et ils leur donnent carte blanche pour se lancer.
Ouais, ça se fait de plus en plus, ça, des résidences de chefs. Ouais.
Exactement. Donc on travaille bien avec eux et après avec plein de restaurants mais assez divers. Un de mes meilleurs clients, c'est un restaurant asiatique qui s'appelle Pinch Chinese et qui travaille très bien Lafitte aussi, qui travaille très bien Hébergé. C'est lui qui moi ça marche très bien aussi avec la cuisine asiatique, je trouve les vins de Denis. Et donc c'est un peu réparti comme ça. Pour l'instant, on bosse avec une quinzaine de partenaires sur New York en espérant que ça grandisse un peu. Mais le retour marché pour l'instant est très bon sur les vins. Après, il faut réussir à convaincre, à fidéliser. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour l'instant. Mais on sent qu'il y a une traction qui est en train de se prendre avec la récurrence du bateau qui arrive et puis avec les règles aussi par rapport au Covid qui commencent à être un peu plus faciles à gérer.
Oui, parce que t'es passé vite, mais vous êtes lancé en 2020, quoi. Ouais, c'était pile au bon moment.
C'était un peu l'enfer.
La première transat a lieu en 2020.
Ils sont partis. En fait, on a fini le bateau en octobre 2020. Ils sont partis genre 15 jours après, quelque chose comme ça, je crois.
Ouais, d'accord. On était vraiment au cœur de la pandémie, quoi.
Voilà. Et donc, en plus, le temps de laisser les vins reposer. Donc, on a commencé à vendre en janvier, qui n'est pas non plus le meilleur des mois, en général, pour vendre du vin. Et après, moi, j'ai eu des soucis de visa. Enfin, on a eu plein de soucis un peu compliqués. On a une tornade qui a frappé l'entrepôt. Enfin, vraiment plein de choses super. Donc, on est un peu blindé maintenant. Donc, on espère que ça va aller mieux derrière.
Ce qui a décidé à construire le deuxième voilier, c'est donc, a priori, le succès du modèle économique qui ne repose pas sur le vin.
Non.
C'est d'abord le chocolat, ensuite le café et le vin arrive en troisième, c'est ça ?
C'est ça. À peu près 90% du chiffre d'affaires est fait par le chocolat. Donc c'est vraiment le chocolat qui... Le cœur du projet Grain de Sel, de toute façon, c'est le chocolat. Le café est venu un peu avant, mais c'est vraiment le chocolat parce que c'est là où on a le plus d'expertise, où on produit vraiment, on a des chefs chocolatiers. Mais non, comme je disais au début, en fait, la partie vin s'est créée un peu derrière, où ils se sont dit, il faut qu'on remplisse le bateau, donc qu'est-ce qu'on a ? Et donc c'est venu derrière, donc c'est plus du bonus, et pour aussi commencer à alimenter et à faire connaître un peu Grain de Sel aux États-Unis, parce qu'à terme, on veut créer une chocolaterie en fait, sur place à New York, pour distribuer du chocolat et une torréfaction. Donc il y a vraiment une volonté de développement par le chocolat avec le vin qui reste un peu notre fer de lance pour nous faire connaître, pour travailler aussi avec des vignerons en France et exporter des produits. C'est toujours un peu cette idée-là de se dire il y a des produits dont on ne veut pas se passer. Donc comment on fait pour les consommer et les importer de manière un peu plus écologique. Donc le chocolat, le café, que des produits plaisir un petit peu en fait. Donc le vin français c'est pareil, il y a des très bons vins aux États-Unis mais ça reste quand même quelque chose d'un peu différent.
Alors du point de vue économique, le transport à la voile, 18 000 bouteilles ça peut paraître beaucoup mais en fait c'est assez peu. D'un point de vue macro quoi, enfin par rapport à un porte-conteneur, soyons clairs, quel est l'impact sur le prix? Est-ce que toi t'arrives à tenir un prix à la vente arrivé à New York qui soit encore décent, ou en introduisant les coûts de transport ça fait des bouteilles qui sont hors de prix?
Ça fait pas des... En fait, le principe a été aussi de se dire qu'on allait choisir des vignerons avec qui on allait devenir vraiment des partenaires. Donc, de faire en sorte de garder un peu les prix d'achat aussi assez serrés. Et après, en fait, sur les vins, on marge vraiment très peu. Donc bien évidemment, c'était aussi pour se dire bah, qu'on se lançait, donc il fallait pas qu'on soit trop important. Mais pour vous donner une idée, en fait, sur une bouteille de vin qu'on transporterait donc avec grain de sel, par rapport à un vin qui ferait Le Havre-New York sur un porte-container, même si les tarifs ont énormément augmenté là sur les porte-containers depuis un moment, on rajoute à peu près 2 dollars sur le prix de vente final en fait au consommateur à New York. Donc sur des bouteilles qui sortent à entre 25, 30 ou 40
dollars.
On est à
10%, quoi.
Voilà. Donc ça reste aussi acceptable pour un consommateur new-yorkais qui a un budget pour acheter ce genre de vin. Donc ça reste. Enfin, on n'a jamais eu en fait de problème par rapport à ça, par rapport au prix. Les gens comprennent bien, même si au début les Américains ont un peu de mal à comprendre que c'était moins cher. C'était là, mais vous utilisez du vent, donc il n'y a pas de fuel, donc ça doit être moins cher. Et donc de leur expliquer que c'était pas du tout le cas et que c'est beaucoup beaucoup plus cher à transporter à la voile actuellement.
C'est une question de masse.
Exactement.
Là où ils n'ont pas tort, c'est que
tout à fait.
Si tu en transportais beaucoup plus à la voile, ça coûterait moins cher que de payer du pétrole.
Exactement. Donc avec le second voilier, vu qu'on va être deux fois plus grand, on va diviser par deux quasiment le coût de transport. Donc on va être de plus en plus économiquement aussi efficace par rapport à ça sur les vins. Et sur le chocolat, c'est à peu près 10 centimes par tablette, de plus que si tu es transporté conventionnellement.
Alors, quand on a choisi et discuté un peu des vins qu'on pourrait boire ce soir, pour être un peu illustratif de grain de sel, donc évidemment c'est des vins que tu transportes, que le bateau transporte, on est tombé sur ce vin de Denis Hébinger, au-dessus des nuages, et tu m'as dit tout de suite, ça c'est ma meilleure vente à New York, ce qui est assez épatant. Mmh. Laurent, c'est pas ta meilleure vente au Wine Therapy Wine Therapy de Paris, parce qu'il y a Wine Therapy à New York, c'est évidemment, ça. C'est pas le même.
Oui, les vins de macération, ça reste...
C'est un vin orange.
Quelque chose d'assez confidentiel. Mais c'est ma dernière bouteille. Hein. Je vous fais quand même l'honneur de vous faire partager la dernière bouteille d'Au-dessus des nuages 2018 que j'avais au Wine Therapy. Je suis content de le faire découvrir parce que c'est... Bon, déjà, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Hein. Denis est en train de reprendre progressivement le domaine de ses parents. Qui est un domaine qui était déjà en biodynamie depuis une quinzaine d'années. Et c'est un... Moi, je l'appelle un peu le Zébulon de l'Alsace, parce qu'il a une énergie de folie. Il est plein d'idées, il est toujours en train de vouloir convaincre ses auditeurs qu'il faut changer la façon de travailler en Alsace, parce que c'est un fervent défenseur des terroirs. Or, comme vous le savez, l'Alsace, c'est une appellation fourre-tout. Hein. C'est l'AOP Alsace. Et puis voilà, on ne met pas en avant, à part les grands crus, on ne met pas en avant la spécificité des terroirs qui sont très, très variés.
Mais plutôt les cépages, le Riesling, le Gewürztraminer, des monocépages. Et lui, justement, fait de l'assemblage.
Or, il fait partie de ces jeunes vignerons alsaciens qui sont en train d'essayer de défendre la mise en place de premiers crus en Alsace, par exemple. Parce qu'ils considèrent que ce qu'a fait la Bourgogne, l'Alsace devrait être tout à fait capable de le faire. Et ça crée évidemment des vagues au sein de l'appellation Alsace. Hein. Tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord avec cette approche. Mais moi, j'aime beaucoup la personnalité de Denis, de cet enthousiasme, cette énergie. Et donc, au sein du domaine, évidemment, ses parents étant déjà en biodynamie, lui, c'est l'étape suivante, c'était de se dire, je vais faire des vins avec le moins de soufre possible, donc ce qu'on appelle les vins nature, souvent. Et là, on a l'illustration exacte de ces innovations, de ces expériences, puisqu'au-dessus des nuages, c'est une cuvée qu'il a créée. Donc on est sur un assemblage essentiellement de Gewürz et de Riesling avec une dose de Pinot Gris. Et puis je vais peut-être vous laisser en...
Et c'est un vin de macération.
Oui, vin
donc,
de macération.
On rappelle comment c'est du vin blanc qui est...
C'est des cépages blancs, effectivement, qui sont vinifiés comme des rouges.
C'est-à-dire qu'on laisse les pots de raisin.
On met en grappe entière et en fait, il laisse co-fermenter les trois cépages ensemble pendant, je crois, 2 à 3 semaines. Hein,
15 jours, quelque chose comme ça.
Voilà, c'est ça. Et à partir de là, après, il y a donc un élevage qui se fait sur 6 mois.
Et ça donne cette superbe couleur orange. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu parles d'un vigneron qui essaye des choses et qui secoue un peu le cocotier en Alsace. Et le vin orange, ce type de vin de macération, on en a déjà bu dans l'émission, mais c'est aussi un vin qui est très tendance. Et c'est assez drôle d'entendre qu'à New York particulièrement, tes clients, ils sont assez... preneur de ce vin-là, tu sais l'expliquer ? Est-ce que ils en ont pas beaucoup, ou au contraire c'est ce qui marche le mieux, comme je sais pas, l'IPA à la bière aujourd'hui, c'est ce qu'on consomme le plus.
Ça marche très bien.
Un effet de mode.
Ils avaient de l'avance aussi par rapport à ce que même à Paris, où maintenant on a quand même beaucoup de vins orange, enfin qui sont à disposition dans des bons restaurants ou des bonnes caves, mais ils étaient un peu en avance, peut-être parce que ils sont peut-être un peu moins chauvins, et donc c'était plus facile d'amener des bouteilles un peu différentes à ce moment-là. Mais c'est vrai que maintenant moi c'est quelque chose que je travaille super bien, peut-être aussi parce qu'on a, moi j'ai ciblé aussi de par les vins que j'emmenais et puis de par mes préférences aussi en termes de vin, des restaurants, des caves qui sont un peu adeptes de ces choses un peu nouvelles, de des vins oranges, de choses comme fait le domaine Aquilé aussi, avec son couet de chaleur, qui est un truc assez dément, je sais pas si vous avez déjà goûté.
J'ai goûté, ouais.
C'est assez rigolo, j'en vends très bien aussi là-bas. C'est un truc un peu particulier, c'est des quetsch qui sont fermentés, et après il y a un ajout de Riesling en fait juste avant la mise en bouteille pour relancer une fermentation, où ça donne quelque chose un peu indéfinissable entre le cidre, la bière, le vin, enfin c'est très particulier. Mais non, c'est des choses qu'ils apprécient beaucoup. Peut-être aussi par rapport au fait que l'aventure soit un peu, enfin l'aventure grain de sel, le fait de transporter à la voile intéresse des gens aussi qui sont un peu poussés dans ces côtés de vin nature, de vin très propre en biodynamie et des choses comme ça. Donc je pense que ça va de pair en fait avec l'aventure, et que du coup les vins de Denis en particulier marchent très bien sur place.
Là pour le coup, je pense que le vin se vend bien. Pas parce que c'est un vin orange, parce que c'est d'abord un bon vin.
Très bon aussi.
parce que moi, des vins oranges, on en a goûté, ça part souvent. Alors, ce qui est intéressant sur le vin orange, moi je trouve toujours qu'il y a un nez de cidre. Alors là, on le sent un tout petit peu, on sent un petit peu de volatile de cidre là-dessus, mais on a aussi tout de suite le côté très gewürzt au nez, avec la rose de litchi qui pète tout de suite. Et après, justement, on a la gourmandise du gewürzt en bouche, mais on sent vraiment la longueur et l'acidité du Riesling. Et donc, je trouve que c'est un vin orange qui est aussi un vrai vin. Et voilà, je pense qu'il se vend un peu parce qu'il est orange, mais j'ose imaginer aussi, parce que je trouve en tout cas que c'est un vin de qualité.
C'est un bon vin, il est vendu au Wine Therapy, je te rappelle.
Non mais c'était juste, bon, il y avait un côté marketing, bien évidemment, ouais. Qu'il faut surfer sur le marketing pour choper les tendances, mais voilà, c'est un vrai vin très agréable, et qui a une vraie longueur en bouche, et une vraie structure, et à la fois plus un nez de gewürzt, et puis plutôt une bouche de Riesling.
On n'est pas déçu, même moi c'est ce qui m'avait marqué un peu, et quand j'ai rencontré Denis, j'avais goûté quelques vins orange, et il y avait pas mal ce côté où ça pouvait être très explosif, très aromatique au nez, et en bouche ça pouvait être un peu plus plat, et là c'était vraiment un des premiers vins, je me suis dit waouh,
la promesse est tenue,
la promesse est tenue, justement c'est ça qui m'a beaucoup
plu. J'ai envie de prendre un deuxième verre, ce qui est pas souvent le cas, enfin avec les quelques vins oranges, après j'ai une bibliothèque et une grande connaissance des vins oranges, mais j'ai envie d'en prendre un deuxième verre en tout cas.
C'est le danger avec ces phénomènes de mode, c'est que, comme un peu comme les pétnates, beaucoup de gens se lancent dans l'aventure, et y a un peu de tout et n'importe quoi, effectivement, c'est pas toujours facile de trouver les bons, et je trouve que, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, celui-ci est vraiment très 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 chouette, et surtout, moi ce que j'aime c'est la finale sur les amers, quoi, les amers sont fins et...
Tu mets le mot sur... Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Je pense que l'image de la bière IPA m'est venue à l'esprit, pas innocemment. C'est le genre de bière que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a un effet de mode aussi, mais j'apprécie beaucoup cette amertume-là. Et le côté agrume, amer, là, limite pamplemousse, ouais. Et c'est hyper rafraîchissant. Enfin, c'est un très joli vin. Très joli vin. Voilà, donc vous voulez épater vos amis, vous dites au-dessus des nuages, Denis Ebinger.
Pour l'anecdote, l'étiquette est aussi
superbe.
Un élément important. Enfin, Denis y attache beaucoup d'importance, parce qu'en fait, il a travaillé avec un artiste qui s'appelle Keane. Enfin, je ne sais pas exactement comment se prononce d'ailleurs.
Keane TVC aussi.
Si c'est Kean ou Keane, à l'anglaise. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est un artiste de Mulhouse. Qui a travaillé sur cette étiquette et qui illustre bien avec son univers un peu de rêve, hein. C'est sa marque de fabrique, ce que voulait faire Denis avec son vin. Enfin, ça, c'est une belle union.
Bouteille superbe, camaïeu de rouge, de rose, voilà. Puis au-dessus des nuages, c'est quand même assez joli aussi comme nom de cuvée.
Et ça va aussi dans le sens de la raison pour laquelle Denis a participé aussi à l'aventure Grain de Sel, puisque j'en ai discuté un petit peu avec lui, et il me disait que c'était l'idée très poétique du voyage à la voile, de transporter ses vins à la voile. Donc le vin en question, là, au-dessus du nuage, ça colle parfaitement avec l'image de Grain de Sel.
Alors que le vin à la voile, il y a le transport à la voile, il n'y a rien de plus naturel en réalité, parce que il y a à peine un siècle et demi que on transporte tout avec du moteur, mais il y a plusieurs millénaires que l'homme se déplace à la voile, transporte des matières premières à la voile. Donc
C'était vraiment le but, et c'est ce que les deux fondateurs, Jacques et Olivier, appellent un peu le côté de faire de la rétro-innovation. C'est-à-dire de s'inspirer un peu de ce qui est fait, de prendre ce qu'on a disponible maintenant et de mêler les deux pour faire quelque chose d'un peu plus vertueux. Et donc ils l'ont vraiment pensé comme ça. Et oui, Denis, il connaît aussi il a un côté très poétique justement qui est assez marrant. Et donc je pense que ça lui convenait bien comme type de transport.
Alors, finissons sur l'avenir, les prochaines années. Donc, tu as un sacré challenge quand même. Il va falloir remplir ce deuxième cargo. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que, bon, déjà, tu arrives à recruter des vignerons qui répondent au cahier des charges, des vins qui te plaisent, qui vous plaisent? Ça se présente bien?
Ça se présente relativement bien, dans le sens où...
Il sera livré quand, ce bateau, pardon?
Il sera livré, je pense, au dernier trimestre 2023. Donc, il reste à peu près 2 ans. Mais il y a quelque chose qui a bien changé, en fait. Là, tous les vins qu'on transporte, donc c'est des vins que Grain de Sel achète, dont on est propriétaire, qu'on transporte de manière terrestre on bosse avec Ilbrand en France, qui est un entrepôt de vins et de transport, en fait. Bon, c'est un peu une référence. Mais, donc on fait tout. Après, justement, là, depuis quelques mois, j'ai envie de dire, j'ai des appels, en fait, de vignerons, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Soit qui ont vu sur la tablette, soit qui ont entendu parler, parce qu'on a quand même fait un gros tabage médiatique en Bretagne, notamment. Et donc, je pense que, en plus d'avoir cette activité où on aura les propres vins grains de sel, avec, 300 palettes à trouver, moi, je pense que ça va être un peu compliqué de trouver que des petits domaines artisanaux, enfin, qui me plaisent beaucoup. Donc, on va aussi, je pense, commencer à travailler avec d'autres vignerons, mais en leur proposant plus une prestation de transport. Donc, plutôt que d'acheter les vins directement, on leur facturera, en fait, un tarif à la palette. Et donc, ça va permettre aussi, parce que sinon, ce qui est compliqué, quand on bosse aux États-Unis, c'est que les importateurs et les distributeurs ont souvent des notions d'exclusivité. Donc, c'est difficile d'aller travailler avec un vigneron qui est déjà connu, qui ça intéresserait énormément, mais il veut rester bosser avec son importateur, parce qu'ils ont des bonnes relations, qu'ils bossent ensemble depuis très longtemps. Et donc, avec ces 300 palettes à combler, on va, je pense, ouvrir justement à d'autres vignerons où on leur présentera la prestation de transport, mais ce sera vendu par leur importateur. Et donc, nous, on gérera plus cette partie commerciale sur l'ensemble de la gamme.
C'est la logique du modèle. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est d'abord du transport. Donc, on peut avoir des gens qui vous confient leurs bouteilles et les récupèrent à l'arrivée sans que forcément tu aies... adouber chacun des vins, voilà. Et ensuite que tu sois chargé de les distribuer auprès des restaurants. Pourquoi New York?
Parce que c'est en face de la Bretagne. Ça a été un peu comme ça que ça a été réfléchi par mes boss. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a en face de la Bretagne? Il y a New York, et puis c'est quand même une scène du vin aussi qui est super impressionnante et super intéressante, avec justement des bouteilles comme ça qui peuvent sortir assez facilement. Donc il y a des très grands sommeliers, des très grands restaurants, des grands bars à vin. Donc c'est un peu comme Paris, hein. En vrai, on en a quand même beaucoup de possibilités de débouchés commerciaux aussi dans des villes comme ça. Le but étant, à moyen terme, de faire différents stops, peut-être de monter du coup à Boston, après peut-être Baltimore, peut-être la Floride, toujours en restant sur la côte Est, parce qu'on va pas passer le canal non plus, ça va être un peu long.
Ça pourrait être Montréal aussi.
Oui, c'est assez compliqué de descendre le Saint-Laurent aussi, mais c'est quelque chose que je regarde.
Ils sont pas directement sur le front de mer, ouais.
Mais je regarde justement, parce que j'ai eu pas mal de contacts au Canada, justement, que ça pourrait intéresser ce type de projet, ce type de vin, étant donné qu'il y a déjà eu en plus un transport à la voile d'une marque de champagne, une très grosse marque de champagne. Mais non, le Canada, ce serait super intéressant aussi, mais un peu compliqué en termes de navigation pour l'instant.
Et pas l'Angleterre, c'est trop près?
On fera peut-être. On fera peut-être.
Non, je sais pas. Mais oui, entre deux grandes transats, vous pouvez faire 2-3 allers-retours.
C'est le nouveau projet ici, là, sur l'année 2022, c'est qu'on se lance. Donc, en plus d'exporter du chocolat, je commence à me lancer avec Pierre, qu'on a recruté en octobre, sur du sourcing d'huile d'olive. Et donc le but va être justement d'aller sourcer de l'huile d'olive au Portugal et en Espagne pendant l'été, et d'en vendre un peu en France et d'en exporter aux États-Unis aussi. Donc on essaye de chercher, en fait, pour remplir un peu ce bateau, le second bateau, des produits qui ont toujours un peu un rapport avec l'humanitaire, enfin l'univers, pardon, de la voile. On va pas transporter des chaussures, même ça pourrait être sympa, mais c'est moins dans l'esprit des gens, en fait, ça correspond moins à un transport à la voile. Donc on cherche ce type de produit.
Et tu disais qu'il restait un trou à combler entre New York et la République dominicaine, et là vous avez trouvé une astuce. Vous avez trouvé une cargaison à emporter.
Parce qu'on, bah, on savait pas exactement, parce qu'il y a pas forcément énormément de produits américains ou new-yorkais qui se vendent en République dominicaine.
Et on s'est Coca-Cola, dit... mais oui, ouais, voilà. Vous le confie pas. Ouais.
On s'est dit que, en fait, c'était sûrement la bonne occasion de faire un transport humanitaire, en fait. Donc, c'est-à-dire que on bosse avec une fondation qui s'appelle l'AFIA, qui est basée à Yonkers, c'est juste au nord de New York, et qui récupère du matériel médical, en fait, dans les hôpitaux new-yorkais, qui aurait été destiné à être jeté parce que, bah, il y a des régulations par rapport à des dates ou des choses comme ça. Et ils récupèrent des dons aussi de particuliers. Et donc, en fait, ce qu'on leur a proposé, c'est de prendre en charge toute la partie administrative. Parce que bah, moi, je bosse déjà avec des agents maritimes, des courtiers en douane et des choses comme ça sur les États-Unis. Sur la partie République dominicaine, Julia, qui est notre directrice achat et responsable importation, connaît aussi très bien nos partenaires là-bas. Donc, en fait, on leur propose une prestation de transport gratuite. Donc, on a mis 20 palettes de matériel médical l'hiver dernier, justement, pour l'emmener depuis New York jusqu'à la République dominicaine et à destination d'une association qui s'appelle Moshta. Et qui, en fait, c'est une association qui cherche à amener les travailleurs immigrés haïtiens ou les descendants, en fait, haïtiens avec un hôpital, enfin, une clinique publique, un hôpital mobile, etc. Donc, de faire un peu dans cet esprit-là, de se dire que, en plus de l'aspect environnemental, on cherche aussi à avoir un aspect un peu sociable durablement.
Bah, bravo hein, pour ce projet.
Et d'être jamais avide.
Voilà.
Oui, c'est le principe.
C'est le principe, ouais, exactement.
De base. Donc ça va finir dans quelques années, on te réinvitera, puis tu feras un tour. En fait, le bateau part, il s'arrête au Portugal, prend de l'huile d'olive, ensuite il
ira jusqu'à New York.
New York, et puis il descendra jusqu'à Sao Paulo. Et puis,
ça, ouais, les marins ont très envie apparemment de descendre jusqu'à là-bas, mais je pense que c'est un peu long normalement. Mais non, c'est vraiment le but, et c'est pour ça aussi qu'on a cette période en été. On fait 2 transats par an. Donc une au printemps, une à l'automne, parce que l'été c'est la période cyclonique et du coup c'est un peu moins rigolo ouais, de traverser l'Atlantique pendant la période cyclonique. Donc l'été en fait le bateau entre guillemets est un peu libre et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un petit tour de Bretagne, des différents ports et notamment de Dunkerque où on construit une chocolaterie cette année et donc d'utiliser en fait dès que le bateau est disponible de faire du cabotage, de faire fonctionner le bateau en fait pour faire du transport à la voile.
Je pense qu'il y a un concept de transat œnologique à développer avec des cabines confortables et à dégustation des vins tous les jours.
La cale est censée arriver pleine à New York quand même.
Oui, c'est, ouais. C'est le problème.
D'ailleurs, le grain de sel, c'est un dry boat. Donc, il n'y a pas du tout d'alcool en fait pour les marins sur le truc. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis des caméras dans la cale aussi au cas où, pour si jamais, parce que les marins bretons, quand même, mine de rien,
ils ont leur réputation.
Voilà. Et quand ils arrivent à New York après 3 semaines de traversée, ils sont bien motivés à aller boire des bouteilles. Grand sale, donc c'est aussi ça qui fait marcher le chiffre d'affaires de l'entreprise derrière.
Merci Mathieu Rioux de nous avoir parlé de Grand Sale, cette belle initiative bretonne pour transporter du vin, du chocolat, du café et toutes sortes de choses à la voile, ce qui est juste un juste retour aux sources. C'est quoi la bonne citation Patrice?
Bah, c'est pas moi, c'est Romain Garry, c'est le renouveau a toujours d'abord été un retour aux sources.
Voilà, c'est ça, l'innovation elle est là. On a bu deux vins, on a bu ce Château Lafitte du vigneron Antoine Araoux en Jurançon sec. Il y a un nom pour la cuvée ou ça s'appelle juste
sec.
Sec.
Et ces nouvelles bouteilles, maintenant il y a juste marqué sec.
Très très joli vin, une belle découverte de Jurançon sec. Il n'est pas impossible qu'on reparle de Jurançon un de ces quatre d'ailleurs. Et le deuxième vin, c'était le vin de Denis Ebinger en Alsace, au-dessus des nuages. Très beau vin de macération, vin orange, à la mode, mais néanmoins excellent et très savoureux. Bonne continuation dans ce joli projet. On va suivre un petit peu vos aventures. On peut vous suivre, je le disais, sur Instagram. Et ça fait, comme toujours, la voile et les bateaux, de belles photos.
C'est ça.
On se quitte pour tout de suite. Merci de nous avoir suivis. On peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Quand on publie des choses, c'est pas toujours. Hein. Quand on n'a rien à dire, on dit rien. Ça, c'est un truc. C'est pas très fréquent dans les réseaux sociaux, mais bon, nous, on en est encore là. Et puis, on se retrouve dans une paire de semaines pour un autre sujet, un autre invité. Et ce sera un vigneron. Merci, Patrice Defay.
Merci pour l'invitation. Merci à Grand Sale.
À très bientôt. Salut Laurent.
Salut.
À bientôt. Ciao.
Merci.